Je voudrais regarder l'idée d'aller en refuge, puisque j'ai dit que le bouddhiste, c'est quelqu'un qui allait en refuge dans le Bouddha Dharma Sangha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme traditionnel qui vient du temps du Bouddha. Est-ce que ça signifie, ben, c'est un mouvement de quelque chose de quelque chose qui ne va pas vers quelque chose de mieux. C'est pareil, il pleut, on cherche refuge là où ça ne pleut pas. C'est ça que ça évoque. Donc ça invoque le mouvement, un éloignement de l'existence telle que nous la percevons, on y reviendra, qui est non satisfaisante. On est dans des conditions non satisfaisantes. Il pleut et ça ne nous plaît pas. On est dessous et on cherche un refuge. Donc il y a un sens que là où on est en ce moment n'est pas satisfaisant, que ça ne colle pas et qu'il y a quelque chose d'autre. Ça colle pas et qu'il n'y a rien d'autre, ben c'est la dépression, pessimisme, ou un sens que l'existence est absurde et mauvaise. Mais il y a la perception aussi de quelque chose d'autre. C'est ça que ça évoque, ce mouvement d'aller en refuge. Et là, on va voir donc qu'est-ce que c'est, vers quoi est-ce que les bouddhistes vont en refuge. Parce qu'il y a d'autres traditions religieuses qui ont un sens aussi que ça colle pas, il y a quelque chose qui colle pas, l'existence, celle que j'aperçois, oui, est insatisfaisante, mais qui ne vont pas en refuge dans le Bouddha Dharma Sangha, qui ne sont pas bouddhistes. Alors on va regarder le Bouddha, ce qu'il Bouddha, on est en haut, le joyau du Bouddha, c'est ce que ça représente, ce qui est sur mon kesa. Kesa, c'est un vêtement de la tradition japonaise qui remplace la robe. Et c'est le joyau jaune, les trois refuges du bouddhisme sont aussi appelés les trois joyaux parce que ça évoque quelque chose de rare et de précieux et de beau. Et le Bouddha est le joyau jaune, mais je l'ai mis en noir parce que je ne peux pas écrire jaune sur du blanc. Donc aller en refuge dans le Bouddha, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord le Bouddha historique. Bouddha historique, je ne sais pas si vous avez lu quelque chose sur la vie du Bouddha. Shakyamuni, Bouddha, ou Siddhartha Gautama, comme il était appelé avant de devenir Bouddha. C'est les représentations c'est du Bouddha, comme vous voyez ici. Quelques caractéristiques de la vie du Bouddha, plus de 2500 ans, au nord de l'Inde, né dans une famille riche. Sa vie a commencé dans l'aisance et dans le plaisir. C'est important c'est un élément important. Il a d'abord connu, il a d'abord, disons, joui de l'existence matérielle, de l'existence mondaine. Il en a profité. Il a bien profité des plaisirs des sens, de tout ce que la vie ordinaire peut nous offrir. Mais il a aussi vu, il a eu une vision de la souffrance. Il a vu la vieillesse, il a vu la mort, il a vu la maladie. Donc il a vu que, qu'il y avait tous ces plaisirs dont on pouvait jouir, mais qu'à n'importe quel moment, ces plaisirs pouvaient nous être enlevés par la mort. N'importe quel moment, la maladie pouvait nous frapper. Et que la vieillesse nous attendait. Et il a vu et ressenti la souffrance de la vie humaine. Qui a provoqué un désillusionnement. S'il n'y a que ça, et je sais que c'est bien, c'est peut-être l'expérience dont vous parlez, que j'ai parlé dans une autre conférence, mais j'ai bien ressenti ça, moi, dans mon adolescence. C'est que ça qu'on m'a à offrir, c'est tout. Et je suis supposée être satisfaite de ça. Pour moi, c'était l'idée de trois petits tours et puis s'en vont. Une vie, voyez des enfants, un travail, ben la vie adulte normale qu'on présentait, des modèles. Et puis à n'importe quel moment, patatrac. Et là, c'était pas possible. Je dis non. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas suffisant. Pas suffisant, c'est pas suffisamment grand. Je peux faire mieux. Il y a quelque chose de plus vrai, de plus profond en moi. Donc il y a non seulement ce désillusionnement, mais il y a aussi ce sens qui doit y avoir autre chose. Et pour un Bouddha, il n'y a pas de bouddhisme encore. Les Bouddhas sont ceux qui retrouvent la voie vers l'éveil. Donc il y avait en lui un sens que non, il doit y avoir autre chose s'il y a un hors de la souffrance. Je veux le trouver. Il a aussi vu un religieux errant. Donc, il a aussi vu la possibilité d'une recherche spirituelle. C'est ça que ça signifiait, le religieux errant. Il y a la vie ordinaire, avec ses joies, ses souffrances qui nous attendent toutes, son lot mélangé, et il y a la possibilité d'autre chose. Et il a voulu s'adonner à la possibilité d'autre chose. Donc, disons qu'il a joui du matérialisme, pour parler dans nos termes, d'aujourd'hui. À l'époque, en Inde, c'était la mode, l'ascétisme était à la mode, pas comme de nos jours. On battait le corps, on le réduisait, on le nourrissait d'un grain de riz tous les jours. Certains ascètes se tenaient avec le bras en l'air jusqu'à ce que le bras se dessèche. D'autres se couvraient de cendres, d'autres s'accrochaient dans les arbres par les pieds. Tout un tas de pratiques de l'ascèse. C'est la punition du corps pour libérer l'âme. C'est l'idée que corps est vicié, tout ce qui est, qu'il y a une âme prise dedans qui doit être libérée pour rejoindre quelque chose d'autre. Donc il a essayé ça pendant 7 ans et il s'est dit, bon, ben alors là maintenant je vais mourir. C'est tout. Et ça n'a toujours pas marché. Il a essayé le matérialisme, jouir du plaisir des sens, ça ne marchait pas, ça n'allait pas au-delà de la douleur. C'était, si vous voulez, comme c'est un peu violent comme image. Je pensais à du miel sur un tranchant de lame. C'est le Bouddha qui dit ça. Mais vous voyez, ça, on met du plaisir par-dessus quelque chose qui coupe. On ne s'adresse pas à vraiment. On n'adresse pas le problème en face. Il y avait d'autres maîtres qui enseignaient l'extase, vous voyez la méditation dans le sens de transe. Donc il a eu aussi bien du plaisir extrêmement intense que de la souffrance extrêmement intense. Il s'est rendu compte que les deux extrêmes de la mortification et des plaisirs ou de l'extase ne mènent pas à l'éveil. Il doit y avoir un autre chemin entre ces deux extrêmes. Il s'est donc assis au pied d'un arbre en disant, ben maintenant, je ne me lève plus. J'ai tout essayé, donc j'y vais, j'atteins l'éveil, ou ben, je meurs, il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais je ne me relèverai pas tant que je n'aurai pas atteint l'éveil. Donc énormément de détermination. Il a atteint l'éveil. On va en parler davantage après. L'éveil, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Le bouddhisme, aussi bien dans son début qu'à la fin, c'est la sagesse. Il commence par la sagesse et il nous invite à la sagesse. À voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça l'éveil du Bouddha. Mais ceci suivi d'un enseignement inlassable, adressé à tous, non dogmatique, qui s'adapte aux circonstances et à la personnalité de l'auditeur. Le but, c'est d'amener ceux à qui on parle, à qui il parle, à l'éveil. Donc ça, c'est l'aspect, si vous voulez, compassion de la vie du Bouddha. Il s'est sorti lui-même de la souffrance en s'éveillant, et après 45 ans, passé à enseigner, aller de village en village. Donc voilà les caractéristiques de la vie du Bouddha. Ça inspire certaines personnes. Certaines personnes, quand elles lisent sa vie, reconnaissent des éléments dans la leur, aiment cette vie les inspire, ou parfois juste voir une image du Bouddha inspire les gens. Donc c'est là le premier élément, d'aller en refuge vers le Bouddha. Mais certaines personnes, cette vie, ça leur dit rien du tout. C'est 2500 ans en Inde, ça veut rien dire. Une image du Bouddha, pour certains, c'est encore assez asiatique, ça ne veut pas dire grand-chose. La tête ne leur plaît pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, aller dans le, en refuge dans le Bouddha? C'est essentiellement croire qu'il est possible à tout être humain qui en fait l'effort de s'éveiller. C'est ça qui symbolise le Bouddha. On n'a pas à l'aimer être aspiré par sa vie, mais on peut au moins croire que le Bouddha s'est éveillé. Un être humain éveillé n'est plus tout à fait un être humain, ce n'est pas un dieu non plus, mais ce n'est pas un être humain normal non plus. C'est un être humain qui est allé au plus haut de son propre développement, du moins au plus haut qu'on puisse le percevoir, et que c'est possible à chaque être humain qui en fait l'effort d'atteindre ce qu'il a atteint. Donc c'est surtout ça que ça symbolise, d'aller en refuge dans le Bouddha. Si on ne croit pas qu'il est possible de s'éveiller, eh bien, on n'est pas bouddhiste, tout simplement. Ou si on croit que oui, le Bouddha l'a fait, mais que moi, je ne peux pas, on n'est pas bouddhiste non plus. Et à ce moment-là, on peut regarder d'autres religions ou d'autres méthodes de développement. Un accompagnement, hein, varié. Regardons un petit peu plus un autre aspect. Donc on a Bouddha, on a l'idéal de l'éveil humain, possible pour tous ceux qui en sont l'effort. Mais voyons un petit peu mieux qu'est-ce que c'est que cet éveil humain, dans la mesure où on peut en parler. C'est essentiellement trois grands groupes, parce qu'éveil, éveil, éveil, ben oui, ça veut déjà dire pas endormi. Ça peut attirer. Ça peut attirer surtout ceux qui sont attirés par la sagesse. Quand on est endormi, on n'est pas éveillé. On est dans nos rêves. Donc ceux qui sont attirés par la sagesse sont attirés par l'idée d'éveil. Ça veut dire quelque chose. On a un sens qu'on est dans le brouillard et on veut être plus clair. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le côté affectif de l'éveil. C'est tout le groupe de bonheur, compassion, amour. Tout ça à l'infini. Donc il y a aussi cet aspect-là de l'éveil. C'est pas seulement voir les choses telles qu'elles sont, être clair, être éveillé, c'est aussi être plein d'amour, de compassion, de bonheur. C'est tout le côté affectif. Et puis un autre groupe qui attire ceux qui aiment la liberté, c'est le côté énergie. C'est de l'énergie infinie, donc c'est sagesse infinie, amour infini, bonheur infini, côté affectif, et côté énergie, eh bien c'est liberté infinie. Il n'y a pas d'obstacle. Jamais fatigué. C'est ça essentiellement. Et ça représente aussi avoir des qualités, des valeurs qui recoupent finalement ce dont je viens de parler. Bon ben le Bouddha, on y croit pas trop, mais on a comme idéal l'amour, si vous voulez. L'amour universel, c'est quelque chose qui nous fait aller de l'avant. Et on croit aussi que ça fait partie des qualités de l'éveil. Et bien c'est ça que ça représente le refuge du Bouddha. Le plus difficile à comprendre. Le joyau du Dharma, c'est le joyau bleu, un bleu profond, difficile à comprendre. Joyau bleu. Il est là, Dharma. Et dharma a essentiellement deux sens. Dharma veut dire réalité. Donc quand le Bouddha, quand il s'est éveillé à quoi? Au dharma. Bouddha et dharma, Bouddha et choses telles qu'elles sont, ne faisaient plus deux. Il s'est éveillé à la réalité, aux choses telles qu'elles sont. C'est le côté, disons, vision dans notre expérience. Percevoir certaines choses. Et il y a dharma en tant que méthode, toutes les voies, toutes les pratiques tout le processus de transformation, tous ces efforts qu'on fait pour vivre en accord avec ces visions les plus profondes. C'est la voie vers le dharma en tant que réalité. Donc on va d'abord regarder vision, le dharma en tant que réalité, parce que ça rejoint Bouddha, ça rejoint l'expérience de l'éveil. Et l'essence de cette perception des choses telles qu'elles sont, de notre monde, c'est de percevoir notre monde, de percevoir tous les phénomènes, nous-mêmes, comme conditionnés. Donc on a une vision de l'existence qui est appelée de l'existence relative conditionnée. On voit que tout phénomène dépend pour son existence de causes et de conditions. Nous sommes conditionnés. En ce moment même, ce qui se passe dehors fait partie des conditions. Nous ne sommes pas là tout seuls, isolés. Vous voyez, ces conditions de la manifestation affectent ce qui se passe maintenant. Ces conditions de manifestation-là, elles dépendent de tout un tas de gens qui passent là, mais je ne sais pas à quoi elle est reliée. Si ça se trouve, elle est reliée à quelque chose qui se passe au Pérou. Vous voyez ? Donc, tout est là, et il y en a un petit morceau, nous, qui nous touche. Nous sommes conditionnés par notre appartenance, notre nationalité, notre... notre éducation, notre tradition, le climat social, ce qui s'est passé ce matin, la température ici, ce que je vous dis, vous voyez ? Et sans arrêt, chaque instant d'existence est comme ça. Et nous, on voit le conditionnement immédiat, si vous voulez, hein, papa, maman, cette pièce. Mais plus on y regarde, plus ça s'élargit. Donc s'ouvrir à la conditionnalité, c'est aussi s'ouvrir à l'interconnexion. C'est finalement, à travers l'influence de nos parents ou du climat social, on est ouvert, on voit des ramifications de plus en plus profondes à travers le temps aussi bien qu'à travers l'espace. Et c'est pour ça que je dis les visions des poètes, l'univers dans un grain de sable de Blake. Si on comprend un grain de sable, le grain de sable d'un moment d'expérience maintenant, on comprend, si vous voulez, tout. Et c'est ce qu'a vu le Bouddha quand il s'est éveillé. Il a vu que chaque phénomène, chaque instant d'existence n'est pas un noyau unique, une molécule complètement indépendante et qui change pas, hein, un atome fixe, mais est, disons, un flux, est dépendant de tout un enchaînement, de causes et de conditions. C'est une vision, encore une fois, dynamique et interconnectée de la réalité. Et cette vision-là, cette compréhension-là, mène aussi à la compréhension. Donc c'est ça, l'existence relative, conditionnée, c'est nous, comme on se perçoit, c'est tout ce qui nous entoure, tous les jours, ça dépend de causes et de conditions. Puisque c'est conditionné, c'est impermanent. Les conditions changent, elles-mêmes dépendent de conditions. Donc tout change sans arrêt. C'est ça que ça veut dire la permanence. Ça finit. Ça finit, mais ça peut recommencer aussi. Ça change sans arrêt. Puisque c'est conditionné, c'est insubstantiel. Nous sommes un flux, comme une rivière est insubstantielle. Elle est là, on la reconnaît. La Garonne, c'est pas la Loire. Mais où est-ce que vous trouvez la Garonne ? Si vous faites comme ça, c'est pas la Garonne, c'est une goutte d'eau. Si vous faites comme ça, c'est la berge. Si vous regardez ça, c'est un tronc. Ça, c'est une couleur. Vous voyez, tout ça, mais la Garonne, on ne la trouve pas. Et pourtant, elle est unique. Donc, quand on fait l'expérience de soi-même comme conditionné, on se voit aussi comme impermanent, non substantiel, et donc insatisfaisant. On ne peut jamais, tout peut toujours partir à n'importe quel moment. Ça satisfait un petit moment. Il ne faut pas non plus devenir pessimiste. Mais on ne peut pas y mettre dessus un poids qu'on ne peut pas donner. Ça satisfait jusqu'à un certain point, pendant un certain moment. Et après, les conditions changent et ça change. Donc, c'est la vision du dharma, une vision des choses telles qu'elles sont, c'est se tourner vers nous et vers ce qui se passe autour de nous et y voir comme ça. C'est impermanent. C'est insatisfaisant. C'est pas vraiment substantiel. Et là, je vous donnais un exemple plus concret qui va répondre un peu aux questions de Dieu et qui va nous renvoyer dans l'absolu, l'inconditionné. Avec l'exemple de l'amour, on peut faire une expérience, mais là une vision, une expérience profonde, d'à quel point notre amour pour une personne est conditionné. On se dit, mais finalement, parce que des fois, on dit les gens, l'amour c'est tourné en haine. Tourné en haine. Ben je me demande, qu'est-ce que c'était que cet amour qui s'est tourné en haine? C'était pas un amour pour commencer, c'était un amour conditionné. Et tout ce qui s'est passé, cet amour dépendait de certaines causes et conditions. Que la personne se comporte d'une autre façon, de certaines façons, soit là, et on se rend compte à quel point on met des conditions sur notre amour. Mais c'est vraiment, c'est une vision, hein, c'est quelque chose de profond. Quand on voit toutes les conditions qu'on met sur notre amour, si c'est une vision profonde, ces conditions tombent, on les a vues. On voit à quel point on ne peut pas appeler un amour amour s'il est conditionné. Et en dépendance de cette vision de ce qu'il y a de conditionné dans notre expérience, on se retrouve dans l'inconditionné. Notre amour devient inconditionné. On aime la personne en face de nous. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut mourir, être malheureuse, se comporter n'importe comment. Nous, on aime. On aime de façon inconditionnée. L'amour lui-même, le vrai, n'est pas conditionné. On s'est retrouvé à travers la vision des choses telles qu'elles sont, de la nature conditionnée de notre expérience, on s'est retrouvé dans l'inconditionné. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de Dieu. Nous nous retrouvons dans la réalité, nous nous retrouvons éveillés. Si cette expérience-là durait, ça serait la bouddhéité. Mais souvent, on en a une expérience forte d'amour infini, et puis après, le monde revient. Disons, après ça y est, pop, 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 les conditions reviennent. Mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mettre quelque chose d'autre. Et quand on fait cette expérience et qu'on y reste de l'amour inconditionné, on n'est plus un être humain normal. On est un être humain éveillé. Et ça, c'est la dimension, si vous voulez, transcendantale. On a transcendé le soi. Si on n'aime plus pour soi, il n'y a plus besoin de soi. Et pourtant, on ne devient pas un du tout non plus. On n'est plus égoïste. On vit en accord avec les choses telles qu'elles sont. Donc du côté de notre vision, nos expériences peuvent être, si vous voulez, tournées du côté de la réalité au quotidien ou tournées du côté de la réalité, si vous voulez, moins relative, inconditionnée. Et alors là, il y a une perception d'harmonie, vous voyez, de compassion illimitée, de sagesse illimitée, d'énergie illimitée et surtout de non-dualité. Il n'y a plus de questions de... ici, là, moi, l'autre, aimé, pas aimé, conditionné, même inconditionné, il n'y a plus que les choses telles qu'elles sont. J'ai aussi mis l'image du ciel et du lotus, parce que parfois cette expérience n'est pas toujours conceptuelle. Ça peut être une image, tout simplement, ciel évoque liberté infinie. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Lotus, c'est cette vision de on peut voir chaque personne comme une fleur aussi qui se développe, hein. Voir le potentiel dans chaque personne se développant en infini. Donc ça peut être les visions peuvent passer à travers des symboles. Quelque chose, le lotus, c'est un symbole de développement spirituel complet. Une fleur complètement ouverte, complètement arrivée à la maturité de son existence, qui vient de l'eau du samsara, du lot de l'humanité, mais qui en même temps la dépasse. Le lotus sort de l'eau, tige sort de l'eau. Donc il vient de l'humanité et en même temps la dépasse. et est pleinement ouvert. Donc, à travers l'expérience d'un lotus, on peut, encore une fois, comprendre, s'ouvrir à la réalité inconditionnée. Et de là, on se tourne à nouveau vers le monde et on le voit de façon conditionnée. Et ça, je ne sais pas si ça fait déjà partie de votre expérience, mais ça devrait. On a... Les choses sont telles qu'elles sont sans arrêt. La réalité est là, elle est en nous, elle est dehors. On la voit ou on ne la voit pas. Et c'est normal qu'elle ait déjà, disons, pénétré dans notre vie. Des fois, on n'y croit pas, ces expériences-là. J'ai dû rêver ou... Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas facile à comprendre, hein, mais j'espère, je fais vraiment tout ce que j'ai pu pour essayer de l'évoquer. Donc ça, c'est le dharma dans son aspect réalité. Et cette vision, qu'elle soit tournée d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment ce qui, c'est en principe ce qui nous fait démarrer sur la voie. C'est le point de départ, qu'il y a quelque chose, on a vu, on a perçu, même si c'est qu'intuitif. Et c'est aussi la fin. Cette vision, elle mûrit et elle n'arrête pas de mûrir. Chérissez-les, vos visions, ne les oubliez pas, parce que pour chacun, elles vont être différentes. Elles vont être tournées plus, vous voyez, du côté impermanence, non-substantialité, insatisfaction, non-dualité. Et c'est cette vision-là même qui va mûrir en éveil. Ça va être votre porte vers l'éveil. Et donc, le bouddhisme est tout ce qui vous emmène de là où vous êtes maintenant, de ces premiers pas, jusqu'à l'éveil. C'est les pratiques qui nous transforment, qui transforment tout le reste, tout ce qui ne veut pas se transformer, tout ce qui aimerait mieux que ça reste comme c'est, nous amène vers l'éveil. Et c'est essentiellement trois grandes étapes, celle de l'éthique, de la méditation et de la sagesse.